Les diamants boulardeaux par André Lichtenberger. Alors, commandant, je compte sur votre bienveillant concours. L'officier s'incline. Il va sans dire, monsieur l'inspecteur, que je suis tout à votre disposition. Mais puis-je, en échange, vous adresser une requête? Une opération de police est toujours une aventure fâcheuse sur un paquebot mondain. Je vous serai reconnaissant de mettre la plus grande discrétion possible dans vos investigations et, le moment venu, d'éviter tout scandale dans l'arrestation du délinquant. Le policier a un geste rassurant. Comptez sur moi. Il est de mon intérêt, je veux dire de celui de ma mission, de ne me faire remarquer en rien. Vous n'aurez pas de passager moins voyant que votre serviteur. Je ne sortirai de ma réserve que le jour où, de la façon la plus prompte et la moins bruyante, je passerai à l'acte avant de disparaître. En revanche, commandant, vous me garantissez mon incognito. C'est la meilleure condition du succès. Quand Raymond Douane s'est retiré, le commandant Alexis demeure un instant à ruminer l'aventure. Affaire embêtante. Au diable, l'idée qu'a eue le voleur des diamants boulardeaux de se réfugier à bord du Paul Morand. Et quelle guigne que la police ne soit pas en mesure de l'identifier avant d'appareiller. Enfin, il faut s'accommoder aux circonstances. Au fait, sans dévoiler l'identité de l'inspecteur de la sûreté, il est nécessaire, quand ce ne serait que pour éviter une gaffe, de prévenir le commissaire. Appelez-moi monsieur Bouffig. Vous m'avez demandé, commandant. Autant le commandant Alexis, maître grisonnant, ménage ses mots et ses gestes, autant monsieur Mario Bouffig est souriant, expansif et rondouillard. Bouffre. Un voleur de marque et un policier à ses trousses. Visiblement, la curiosité démange le bonhomme de questionner pour en savoir davantage, mais le respect de la consigne clôt les lèvres gourmandes. « Entendu, commandant. Je serai à la fois sur la réserve et aux aguets, et vous pouvez compter sur moi, pour le cas échéant vous faire part de toute observation. » Sur un signe qui coupe court, M. Bouffig s'éloigne. « Pas moins, en voilà une histoire. » Quand on est sorti du golfe de Gascogne, la mer achève de se calmer. Brise légère, ciel d'azur, la traversée s'annonce tout en soi. Des groupes sympathiques se forment entre les passagers. Le cercle chic se forme autour de la comtesse de Brège. L'étoile en est la petite Madame Cazot-Gramont. Justement, arpentant le deck, il la voit allongée sur son transatlantique. Un roman est ouvert sur ses genoux. Comme elle bâille. Monsieur Bouffig se sent le devoir d'approcher avec le sourire. « Encore un peu de lassitude, madame ?»« Peuh, c'est plutôt que je m'embête. » Au geste de protestation de l'officier, elle bâille plus fort et puis éclate. « En fait de rasoir, commissaire, qu'est-ce que vous m'avez passé avec la comtesse de Brège ? Et si ce pauvre colonel d'Assiage ne se croyait tenu de m'expliquer chaque jour le caractère de sa mission dans le Chaco, je ne crois pas qu'il y aurait plus saumâtre que le professeur Delio. Dites, mon petit commissaire, vous ne sauriez pas me trouver quelqu'un d'un peu plus dans le train ? Voyez-vous, une femme qui navigue aspire à un brin de fantaisie. Cherchez. Vous n'auriez pas, dans un coin, un bout de gangster ou de kidnappeur à me présenter ? Si je vous prenais au mot. Hein ? Quoi ? Rien, je n'aurais pas dû. » Le commissaire se mord les lèvres. La voyageuse s'est redressée, pose la main sur le bras du marin. Ses yeux brillent. « Rien ? Alors vous allez tout de suite me dire tout, ou nous sommes brouillés à mort ?» Au fait, eh bien, voilà. Penché vers la jeune femme qui recueille avidement ses moindres syllabes, M. Bouffig lui fait part de la révélation sensationnelle qu'il a reçue du commandant. Comment ? Nous aurions à bord un escroc d'envergure et un policier lancé sur ses talons, mais c'est passionnant. Continuez, commissaire, dites-moi tout ce que vous savez. C'est fait, madame, et je me demande si je n'ai pas été trop bavard. Si le commandant pouvait soupçonner. Il ne soupçonnera rien, jusqu'au jour où nous lui dévoilerons le mystère que vous et moi allons éclaircir. Quoi, vous en doutez? Est-ce que vous n'imaginez pas que, pour dénicher un gredin dans une réunion de gens du monde, une femme douée d'un peu de finesse est plus désignée qu'un rustaud de policier? Apportez-moi la liste des passagers de première, nous allons travailler ensemble, et je vous parie le porto qu'à défaut de notre escroc, j'aurai dès ce soir dépisté notre Sherlock Holmes. La liste requise des passagers comporte une soixantaine de noms. Au crible d'une active critique, elle est rapidement scrutée, et du premier coup, une moitié est mise hors de cause. des couples voyageant avec un ou plusieurs enfants, des habitués traditionnels de la ligne, des touristes quasi officiels des deux sexes sont éliminés sans discussion. Pour des raisons diverses, d'autres personnalités sont également insoupçonnables. En somme, il ne demeure à retenir qu'une quinzaine d'inconnus. Les figures de la moitié sont déjà familières à la policière improvisée. Je me ferai indiquer les autres à dîner par Baptistin. Empressé aux caprices d'une passagère de choix, Baptistin, le maître d'hôtel, lui nomme successivement les deux Scandinaves, le psychiatre yougoslave, l'avocat égyptien, les trois industriels du Nord, une demi-douzaine de voyageurs à profession indéterminée. C'est dans ce lot, sans contredit, que doivent se circonscrire les recherches qui aboutiront à la découverte de l'escroc et sans doute, pour commencer, à celle du policier. En sortant de table, il bruine ce soir. Quelques convives passent au salon à musique où la cantatrice hongroise promène ses longues mains blanches sur le clavier du piano, tandis que Mme Cazot-Gramont poursuit, imperturbable, son enquête. Un moment, son attention est retenue par une manière de danseur mondain aux bagues multiples, mais le colonel connaît justement par son cercle ce bel âtre aux yeux de velours. « Voulez-vous que je vous le présente ?»« Inutile. Et celui-là ?» Maintenant, à travers son face-à-main, les yeux aigus de la jeune femme visent un individu de tenue correcte, mais manifestement inélégant. Smoking de coupe médiocre, chemise mal empesée, la manche du veston déborde sur la manchette de linge. La mine de l'homme est si inexpressive qu'elle semble viser d'elle-même à s'effacer. Et celui-là ? Celui-là ? Attendez un peu. J'ai bridgé avec lui hier. Un monsieur Duclos, je crois. Plus ou moins ingénieur dans l'automobile. Un monsieur Duclos. Tiens, il me semble connaître ce nom. Dites, colonel, cette magyare abuse vraiment de notre endurance. Puisqu'il bridge, allez donc chercher ce monsieur Duclos en lui demandant s'il ne m'a pas été présenté quelque part. Et moi, j'amènerai ce bon monsieur Xouri, qui fera le quatrième. » Interpellé au passage par la voyageuse, monsieur Xouri se confond en remerciements. C'est, par excellence, l'homme serviable, empressé. Ce menu blondin, un peu poupin, a été introduit auprès de la comtesse de Brège au cours d'une récente croisière en Méditerranée et joue les utilités avec une bonne volonté qui désarme les ironies. Il a suffi du salut emprunté de monsieur Duclos et des menues formalités qui accompagnent le choix des cartes et des places et la fixation du taux de la partie pour que se précisent les soupçons de la jeune femme. Non seulement ses manières manquent singulièrement d'aisance, mais un nœud tout fait boitit pitoyablement sur un col de celluloïde. L'indifférence avec laquelle, ayant contré deux sans atout, il a subi la renonce par laquelle sa partenaire le fait perdre le coup, témoigne d'ailleurs suffisamment qu'il lui trotte en tête d'autres préoccupations que celles du jeu. Est-ce que le va-et-vient de ses yeux en vrille ne dément pas le bon garçonnisme apparent de son allure ? Le tour achevé, l'enquêteuse ne se défend pas d'une malice. En buvant les drinks, on s'est mis à causer diseuses de bonne aventure et tireuses de cartes. Pourquoi la jolie femme laisserait-elle ignorer qu'elle se pique d'un petit talent de chiromancienne ? Quand le colonel et M. Xouri ont quitté le fumoir, elle interpelle son vis-à-vis. « Tenez, montrez-moi votre main. » Avec une menue hésitation qui n'a pas échappé à la devineresse, l'homme présente une main assez nette, aux doigts spatulés, aux ongles taillés médiocrement. « Je vous écoute, chère madame. » Pour commencer, boniment quelconque, ligne de tête et de cœur, monde de Vénus et de Mercure, etc. Puis soudain, la pythonisse s'arrête. « Hé hé, monsieur Duclos, voilà qui est plus singulier. » Savez-vous qu'on discerne chez vous une faculté remarquable de dissimulation, un goût manifeste du risque ? Vous êtes tout à fait différent de ce que vous semblez être. Prenez garde, vous allez m'inquiéter. » Plantant tout droit ses prunelles sur les prunelles mobiles qui se dérobent, Mme Cazot-Gramont y surprend si nettement la surprise, la contrariété, quelque chose comme un brusque repliement de l'être devant l'agression, qu'elle frémit d'une joie délicieuse. Pouffant de rire, elle pose la main sur la manche de drap trop longue. « Cher monsieur Duclos, ne craignez rien. Je vous promets de ne pas vous trahir, et même, si vous le voulez, je vous propose une alliance. » Comme l'homme interdit semble hésiter, elle poursuit. « Voyons, monsieur le policier, êtes-vous si fat que vous pensiez que l'aide d'une femme soit à dédaigner pour vous seconder ? À moins que peut-être, insinue-t-elle avec ironie, vous ayez déjà mis la main sur votre filou, Dans ce cas, je ne réclame qu'une récompense. Montrez-moi les diamants Boulardeau. » Un bref silence. Au premier tressaut d'amour-propre du policier dévoilé succède un apaisement. Ses traits légèrement crispés se détendent. Il murmure avec un sourire. « En vérité, madame, j'aurais mauvaise grâce à contester votre perspicacité. » Et soudain, avec une belle humeur qui met une lueur de charme sur sa physionomie inexpressive, « Puisque vous me le permettez, j'ose non seulement compter sur votre discrétion, mais implorer votre alliance. » Et aussitôt, entré en confiance, à demi-voix, il avoue à la jeune femme haletante de fierté les résultats infructueux de ses premières recherches. Jusqu'ici, il a dû abandonner toutes les pistes. Il a fallu successivement innocenter l'officier, le clergyman, le psychiatre. Ce n'est que tout à l'heure qu'a pris corps en lui un nouveau soupçon. « Que pensez-vous, madame, de Monsieur Xoury ?»« Monsieur Xoury, vous n'avez pas de chance. » La jeune femme éclate de rire. « Non, non, il est vraiment trop nigaud. » Et puis la comtesse de Brège, qui l'a eu naguère pour compagnon de voyage, répond de lui. « Ah !» Monsieur Duclos écoute, approuve de la tête. « Sans doute, sans doute. » « Alors il faudra chercher ailleurs. » « Tout de même, si vous m'en croyez, à l'occasion ne dédaignez pas un supplément d'enquête. Madame de Brège peut avoir été dupée et l'escroc se servir d'elle pour se couvrir. » Au fait, le raisonnement n'a rien d'inadmissible. On verra. Madame Cazot-Gramont tend la main à son associé. Alors, bons amis, dès maintenant et à jamais. L'homme s'incline sur la main potelée et se relevant interroge avec humilité. Tout de même, madame, me direz-vous à quels indices vous avez percé mon incognito? J'avais cru pouvoir. La mondaine rit à gorge déployée. À plus d'un, cher monsieur, mais avant tout à ceci. Elle désigne le nœud de cravate papillon accroché au col en celluloïde. Quand vous voudrez passer pour un Brumel, changez de chemisier. Un peu penaud, le policier hoche la tête. Merci de la leçon. Néanmoins, pensez à monsieur Xoury. Tiens, c'est vous, commissaire. Quel bon vent vous amène? Le commandant Alexis toit son collaborateur de ses yeux froids. Affaire de service, monsieur. Vous-même m'y avez autorisé. Il s'agit du voleur de diamants. Ah, je vous écoute. Vous avez trouvé quelque chose? Peut-être bien. Pourtant, à vrai dire, ce n'est pas moi exactement. Expliquez-vous. Eh bien voilà. Vous avez souvent approuvé, commandant, le souci que j'ai de distraire nos passagères. Alors, l'autre jour, comme la charmante petite Madame Cazot-Gramont s'ennuyait et me réclamait du roman feuilleton, j'ai cru pouvoir lui apprendre que sous la tranquillité apparente du bord se cachait un mystère palpitant. Le commandant fronce les sourcils. Comment, je croyais vous avoir recommandé? D'une voix mouillée et caressante, le gros homme supplie. « Commandant, ne me grondez pas. Vous ne m'aviez pas positivement défendu. Il s'agissait de distraire une femme aimable, influente. En somme, je ne lui ai rien dit, je ne savais rien moi-même. Simplement, pour lui occuper l'esprit, je l'invitais à nous aider à dépister un malandrin. » Le commandant hoche la tête. « Idée baroque. » Avec un accent de triomphe contenu, M. Bouffigue riposte. « Baroque peut-être, mais efficace. » « Parfaitement, commandant. D'abord, le soir même, pour commencer, notre recrue a identifié votre policier. Hein ? Oui. Ah, le don de divination des femmes est vraiment prodigieux. À l'issue d'une partie de bridge, le prétendu M. Duclos a dû dépouiller son masque, prier sa partenaire de lui en garder le secret. Émerveillé de sa perspicacité, il a même sollicité son aide. Elle y a consenti et actuellement est convaincue de tenir le gredin. Vraiment, et c'est M. Xoury. » Le commandant a une sorte de soubresaut. « M. Xoury, je vois votre incrédulité, et je vous avoue l'avoir partagée. Mais je puis vous apprendre que l'inspecteur Duclos est maintenant du même avis que la jeune femme. Toutefois, il désire encore, avant d'agir, arriver à une certitude. J'ai pensé, monsieur, qu'ayant été averti de vos préoccupations, et étant peut-être légèrement sorti de la discrétion que vous m'aviez recommandée, j'avais le devoir de vous mettre au courant des résultats heureux de mon initiative, qui, si vraiment elle fut imprudente... » Monsieur Alexis arrête le flux de son subordonné. « C'est bien. En somme, d'après votre récit, monsieur l'inspecteur X, caché sous le nom du passager Duclos, a vu son incognito percé par Madame Cazot-Gramont, et des recherches qu'il a poursuivies avec elle, il semble résulter qu'il pense maintenant avoir découvert en M. Xoury le voleur authentique des diamants Boulardeau. C'est bien cela. Bon, eh bien, je ne demande pas mieux que de les laisser poursuivre leurs recherches et souhaite qu'elles aboutissent prochainement à une solution définitive. Une seule recommandation, monsieur. Et ici la voix du chef se fait plus sèche. Je compte absolument que notre passagère et son associé ignoreront totalement, totalement, vous m'entendez ? La confidence que vous venez de me faire, je puis y compter ? Mi penaud, mi ravi, M. Bouffig, la main sur le cœur, multiplie les assurances. Le passage de la ligne était l'occasion des réjouissances traditionnelles. Selon les rites consacrés, au nom du bonhomme Neptune et son épouse Amphitrite, ont été copieusement arrosés les néophytes qui, pour la première fois, franchissent les limites de leur humide empire. Ces enfantillages n'ont pas distrait le policier et son associé de leur poursuite. Ayant pris son parti de sa déconvenue d'amour-propre, M. Duclos est maintenant en pleine confiance avec sa complice. D'un commun accord, c'est sur M. Xouri que se concentre leur surveillance. Bien que sa gaucherie soit peut-être plus apparente que réelle, les indices s'accumulent. Il n'est pas jusqu'à un incident dont s'accompagne la burlesque cérémonie qui ne fournisse contre lui un témoignage. Pour se remettre de son baptême, il a offert un porte-flip à la jeune femme. Tout en aspirant à la boisson alcoolique, il témoigne son soulagement que ça terminait la puérile solennité. « Oui, j'avais oublié de fermer ma cabine à clé et j'ai craint tout à coup que, dans la bagarre... » Il s'est arrêté, un peu embarrassé. L'enquêteuse a saisi le joint. Vous avez craint d'être dévalisé ? Est-ce que vous transportez avec vous des trésors ? Prenez garde. Oh, ce n'est pas grand-chose. Le maladroit a barboté. On a toujours avec soi quelques valeurs. La jeune femme hoche sa tête rieuse. Pourquoi ne pas les remettre au commissaire ? Oh, sans doute. Mais voilà. Que l'aigre-fin le plus retour devient balourd entre les griffes d'une jolie femme. Il y a parfois des babioles dont on préfère ne pas s'avouer propriétaire. Oh, oh. Avec quelle naïveté bien jouée, la mondaine a écarqué les yeux. Tiens, tiens. L'imprudence s'est mordue les lèvres, puis, prenant son parti. Tenez, madame, j'aime mieux tout vous dire. Vous me donnerez votre avis. Et à demi-voix, rapprochant son siège, cela a été l'aveu abracadabrant. Dans les temps où nous vivons, chacun, n'est-ce pas, a le droit de prendre quelques précautions. Au dernier tirage de la loterie nationale, M. Xouri a gagné un lot de 500 000 francs et il a décidé de mettre cette aubaine à l'abri des serres du fisc. En somme, il la porte donc avec lui et la déposera à Rio. Quand il en sera débarrassé, il poussera un fameux ouf, d'autant qu'au moment du débarquement, il n'est pas sans éprouver quelque inquiétude. Actuellement, l'exportation des capitaux est si rigoureusement contrôlée. Puisque vous avez bien voulu accueillir ces confidences, « Oserais-je, madame, vous demander un conseil ? Peut-être une aide précieuse ? En vérité, vous m'embarrassez. Naturellement que je suis toute prête. » Réprimant sa joie, la voyageuse minaude. L'homme se rapproche encore, promène un regard circulaire, poursuit en baissant la voix son récit. Décidément, on peut être un habile escroc et un parfait imbécile. Monsieur Duclos a écouté attentivement la relation de son allié. Pensif, il se caresse le menton. « Alors vraiment, vous croyez ?»« Pas de doute. » Avec animation, la jeune femme enchaîne. Le coquin sent planer sur lui une menace. Il craint, sous un prétexte quelconque, au moment du débarquement, une inquisition policière. Trouvé en possession de son trésor, il est perdu. C'est pourquoi l'idée lui est venue de le confier à une étrangère. Mes relations avec le commandant me mettent à l'abri de tout risque de fouille. Une fois sur le sol brésilien, je lui restitue le magot et le tour est joué. M. Duclos approuve, ne dissimule pas sa satisfaction. « En vérité, madame, vous êtes admirable. » La jeune femme se rengorge, pétille d'impatience. « Alors, nous prévenons le commandant ? Quand mettez-vous la main au collet ? Attendez. Pourquoi précipiter les choses ? J'ai une autre idée. Il faut finir en beauté, par un coup de théâtre. » Les deux derniers jours de la navigation sont divins. Une tiédeur délicieuse flotte dans l'atmosphère. Les nuits sont belles. Visiblement, à mesure qu'approche le moment décisif, l'escroc a plus de peine à conserver sa maîtrise sur soi. Assuré de la complaisance de la jeune femme, il reste hanté par la crainte d'un caprice ou d'une maladresse. Il ne manque pas une occasion de lui offrir un cocktail, de se ménager un aparté. Si vous saviez, madame, quelle reconnaissance! Ces distractions au bridge sont impayables. Hier, battant les cartes, M. Duclos a eu le toupet d'interroger M. Dassiag. Dites donc, mon colonel, avez-vous entendu dire qu'il y aurait à bord un filou et un policier déguisé en gens du monde? À cette question, la voyageuse a vu nettement battre les paupières de son partenaire. Les doigts maigres du pauvre Xouri tremblaient en arrangeant son jeu. Mais le militaire a haussé les épaules. « Comme nous ne sommes ni l'un ni l'autre, ça ne m'empêchera pas d'annoncer trois pics. » Le débarquement à Rio de Janeiro est prévu pour demain matin à 10 heures. Après le bridge, la jeune femme et M. Duclos arpentent le pont sous le ciel étoilé. Tout est convenu. À 9 heures, M. Xouri lui aura porté son trésor dans sa cabine. « À 9h30, je vous le remets en main propre. » « Non, ne me remerciez pas. Je me suis trop diverti. Une seule satisfaction, vous amènerez avec vous le commandant et le commissaire pour assister à cette livraison. Je tiens à me payer leur tête. » Levé dès l'aube, les passagers sont sur le pont. La baie de Rio est la 8e merveille du monde. Dans le cirque de montagnes fantastiquement découpé, le pôle Morand effectue une entrée majestueuse. L'atmosphère est d'une pureté indicible. Voici le pain de sucre et le corcovado. Au fond du golfe s'alanguit la ville immense, les gratte-ciels se dressent au-dessus des plages argentées. Si merveilleux soit le panorama, que vaut-il auprès du drame qui se joue à bord? Donc, dans l'ordre prévu se succèdent les péripéties, et dont tout à l'heure le dénouement triomphal couronnera l'ingénieuse perspicacité d'une policière incomparable autant qu'improvisée. À 9 heures précises, un doigt timide frappe à la porte de la cabine de Mme Cazot-Gramont. Des mains incertaines de M. Xouri, on aura presque pitié de son émoi, elle a reçu un petit paquet de papier jaune surchargé de cachets de cire. Sous les yeux clignotants du gredin, elle l'a lestement enfoui dans son corsage. Rendez-vous dix minutes après la descente à terre à l'hôtel Gloria, où elle lui restituera son bien. Encore une fois, le misérable se confond en remerciements et disparaît. C'est un pauvre coquin. 20 minutes plus tard, un paleste et des idées s'approchent dans le couloir et s'arrêtent. On frappe. Entrez ! Dans l'embrasure de la porte se dessine la carrure de M. Duclos. Il pénètre dans la pièce et interroge. Alors, vous l'avez ? Si maître qu'il soit de sa voix, il y a dans son accent une nuance de fièvre. Triomphante, la jeune femme retire de sa tiède cachette le trophée convoité. Le voici. D'une brusque détente, le policier avance la main. Mutine, la voyageuse l'effleure d'une tape légère. Attendez. Et les témoins que vous m'avez promis? Le commandant? Le commissaire? Hélas. Avec un sourire un peu contraint qui masque mal son impatience, M. Duclos est obligé de s'excuser. J'aurais dû y penser. L'un et l'autre sont retenus par les formalités de l'arrivée. Sitôt libéré, le commandant vous invite à venir boire une coupe de champagne dans son appartement et à recevoir en même temps ses félicitations. Et de nouveau, il allonge une main vide. « Donnez !» Mais la voix est si rauque, le geste si brusque, que malgré elle, l'angeleuse a un mouvement de retrait, lève les yeux. Quel est ce masque tendu, presque sinistre, ce regard d'oiseau de proie? Instinctivement, elle se recule davantage, balbutie. « Eh bien, monsieur, ce sera donc tout à l'heure. » Dans l'appartement du commandant, que je vous remettrai devant lui. Mais elle n'achève pas. D'une brusque détente, un fauve s'est jeté sur elle. Tandis qu'un bras de fer paralyse les siens, une poigne robuste lui a arraché le pli précieux, et avant qu'elle ait pu articuler une plainte, une couverture s'entortille autour de sa tête. En vain, elle geint, se débat, étouffe, perd à demi-connaissance. Va-t-elle mourir? Quel est ce vacarme? Quand Mme Cazot-Gramont rouvre les yeux, c'est pour envisager un étrange spectacle. Contre la porte est adossé M. Duclos, le visage livide. Une chaîne d'acier relie ses poignets l'un à l'autre. Deux matelots vigoureux l'encadrent. Sur la table de la cabine, M. Xouri, avec une attention minutieuse, examine un lot de pierreries. Un paquet jaune, bien reconnaissable, éventré sans égard, laisse apparaître quelques morceaux de vieux journaux. Au faible soupir qui annonce la résurrection de leur passagère, le commandant éloigne de ses narines un flacon de sel, tandis que monsieur le commissaire cesse de lui frapper dans les mains et s'écrie avec entrain. « Eh bien, chère madame, pour un gangster que vous réclamiez, je pense qu'on vous a fait bonne mesure. » tandis que sous la conduite de M. Bouffigue, les deux matelots s'en vont remettre le bandit au fer, M. Xoury, autrement dit M. Raymond Douane, inspecteur de la Sûreté, sur l'invitation du commandeur Alexis, résume brièvement les faits. Dès le lendemain du départ, son attention a été attirée par le soi-disant M. Duclos. Mais ses soupçons ne se sont fixés que quand il a appris par le commandant que le Nigaud, exploitant l'erreur de la jeune femme, s'était laissé attribuer la qualité du policier lancé à ses trousses. Dès lors, il ne s'agissait plus que d'effectuer son arrestation au moment le plus favorable. Au débarquement, il était sûr qu'il cachait sur lui son larcin. « Excusez, madame, le truc au moyen duquel, allumant sa cupidité par l'espoir d'un butin supplémentaire, je me suis assuré les conditions les plus discrètes, comme les plus infaillibles, pour procéder à la petite opération. » La voyageuse cache sa figure rougissante dans ses mains. « Et moi qui prenais M. Xoury pour une bête ?» L'inspecteur Douane a un sourire plein de mansuétude. « De votre faillibilité, ne gardez nulle honte, mais seulement un peu d'indulgence pour la nôtre, la première fois que vous nous trouverez en faute. » Le commandant se lève. « Et maintenant, chère madame, pour fêter un succès, vous avez votre part. Mais oui, faites-moi l'honneur de venir boire dans ma cambuse la coupe de champagne qui vous fut promise. » Les verres s'entrechoquent. Dans la détente générale, s'échangent quelques explications complémentaires. Un point encore préoccupe la voyageuse. La comtesse de Brège? Comment put-elle si délibérément servir de caution à M. Xoury? Le visage du policier s'épanouit d'un large rire. Madame de Brège, cette vieille aristocrate, est une de nos meilleures indicatrices. Julia Lapanoui, qui nous a déjà aidé à pincer le grand Auguste du Sénasto. Pedrito, dit le lézard de Tarragone, et la bande des trois Mitresco, les fameux perceurs de murailles. Comprenez-vous, madame? La jeune femme a un signe de tête et murmure avec humilité. Parfaitement, l'as des as. Le modèle qu'il me faut garder devant les yeux, si je veux poursuivre ma carrière sous votre direction, quand j'en serai là. Ainsi s'achève Les Diamants Boulardeau, par André Lichtenberger.